France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Sur France Culture, en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Bonjour à vous tous, avec deux émissions ce mois de janvier consacrées à l'histoire, ce matin et dimanche prochain, avec deux héros de la Seconde Guerre mondiale, deux protestants reconnus juste parmi les nations. Dimanche prochain, nous parlerons d'Adélaïde Oval avec Denis Labelle, et ce matin, c'est Jean Weiner qui sera au cœur de nos discussions avec deux invités. Stéphane Vincent, qui est directeur de Hope Radio, producteur en français pour Adventist World Radio, et Jean-Philippe Lehmann, directeur du campus adventiste du Salève.
Jean Weidner, résistant hollandais, fils de pasteur adventiste, qui par son courage, son altruisme, mêlé à sa connaissance parfaite de Collonges-sous-Salève et sa région, a sauvé plus de 1000 personnes, principalement des Juifs, en les faisant passer en Suisse. Guerre 39-45. Un homme qui, avec l'aide de son ami Gilbert Beaujolin, ont créé un réseau de résistance face au nazisme, avec comme unique arme, leur foi.
Ok, on travaille sur tout ça. Tu vas te mettre encore plus en danger.
Passeur, il guide hommes, femmes, enfants vers la Suisse.
Il va falloir courir très vite. Très vite. Mes enfants, mes chers petits, on y est. Mon signal. On galope comme des lapins, ok ?
Il se fait mitrailler et passe les lignes ennemies. Mais parfois, il pouvait être tenté de douter.
Oui. Pourquoi tu prends tant de risques ? Ta vie est en danger.
Jean Weidner organise des plans de sauvetage ingénieux et réussit des miracles.
Jean, personne ne pourra t'arrêter, même pas moi. Tu es venu chercher mon approbation et je ne peux pas te la donner, car j'ai peur pour toi.
Fils d'un pasteur néerlandais, Jean Weidner était un expatrié hollandais vivant en France. En 1942, Weidner a rejoint les rangs de ceux qui étaient en zone non occupée pour apporter une aide aux personnes persécutées. Pour ses actions courageuses et désintéressées visant à sauver la vie d'autrui, Weidner est devenu le Néerlandais le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale.
Jean Weidner, le passeur.
Bonjour Stéphane Vincent, bonjour Jean-Philippe Lehmann.
Bonjour.
Bonjour.
Stéphane Vincent, nous venons d'entendre donc là la bande-annonce d'une série audio immersive, Jean Weidner, le passeur, produite par Hope Radio. C'est une série qui met en lumière l'histoire méconnue de cet homme, Jean Weidner, résistant adventiste durant la Seconde Guerre mondiale. Alors racontez-nous comment et pourquoi ce projet ?
Alors, comment et pourquoi ? Pourquoi
et comment ?
C'est grâce à notre ami Jean-Philippe Lehmann qui est avec nous dans le studio.
Ouais.
Lors d'une interview que j'avais réalisée avec lui, je crois que c'était dans le cadre du 100e anniversaire du campus adventiste du Salève.
Ouais.
Il me faisait visiter la résidence flambant neuve Jean Weidner, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et à cette occasion, il m'interpelle et il me dit « Si jamais tu as des idées pour valoriser l'histoire de Jean Weidner de manière originale, eh bien, je suis preneur ». Et alors donc, ça est resté dans le creux de ma tête, sans effet immédiat. Hein. Et puis, au bout de 9 mois, hein, comme un temps de gestation, j'ai eu l'idée de faire une série Jean Weidner. Comme ça m'est venu d'un coup. Mais il fallait trouver la personne et
les moyens.
Enfin, les moyens. Ouais. Enfin voilà. Et on arrive au comment. Et donc, d'un coup, j'ai repensé. Un collègue que j'avais eu en radio 30 ans auparavant, qui faisait des fictions dans la radio
Eh oui.
où on travaillait. Et alors, mais je l'avais perdu de vue depuis 30 ans, vous imaginez bien. Il était en Bretagne, moi en Normandie, on s'était plus vu depuis tout ce temps. Et j'ai repris contact avec lui via les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça t'intéresserait de faire une série Alors, il connaissait pas l'histoire de Jean Weidner, donc ouais. J'ai échangé avec lui à ce sujet. Et voilà comment est parti, le projet.
Alors, concrètement, c'est une série à écouter sur le site internet de Hope Radio. Il y aura 10 épisodes d'un peu moins de 15 minutes chacun, je crois.
C'est ça.
Et un épisode offert par mois. Donc, il y a aussi, je crois, le projet d'édition d'une bande dessinée.
Oui, effectivement, c'est un projet à tiroir. Au départ, l'idée, c'était de faire une série audio. Et puis, vite est arrivé aussi le projet de faire une BD qui pouvait s'appuyer sur l'audio, puisque la personne avec qui on travaille sur ce projet-là, qui est Christian Pierre, un artiste sonore et graphique, m'a inspiré et je me suis dit, puisque tu sais dessiner, pourquoi pas, est-ce qu'on s'engagerait pas dans un projet et audio et BD.
Un autre public touché,
tout
de
à
la
fait,
sorte.
Tout à fait.
Et ça, c'est pour quand?
Alors, la BD, on commence à travailler dessus. Oui. On vient de terminer la saison 1 de Jean Weidner, parce qu'il y a une deuxième saison audio aussi qui sera faite, qu'on espère pouvoir démarrer en diffusion en septembre prochain. Et puis, pour la BD...
Plutôt l'année prochaine.
Oui, parce que la santé est un domaine que je maîtrise moins, et donc je m'engage pas sur les délais, mais je dirais plutôt l'année prochaine.
Alors, parlons un peu plus de ce grand homme que fut Jean Weidner. Il est né à Bruxelles en 1912. Il arrive à Collonges sous sa lèvre en 1925, lorsque son père est nommé professeur au séminaire adventiste. Alors, puisque Jean-Philippe Lehmann, vous êtes avec nous dans le studio, peut-être quelques mots déjà d'introduction sur l'adventisme et sur ce lieu, le campus du Salève.
Alors, adventiste, c'est une église protestante.
Vous êtes membre de la Fédération protestante de France, d'ailleurs.
Tout à fait. Donc, issu des baptistes, qui est apparu aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Alors, pourquoi adventiste? On sort de la période de l'Avent.
Mais oui.
Les adventistes mettent l'accent sur l'attente du retour de Jésus. Et puis, adventistes du septième jour, parce que c'est les adventistes, leur seul credo, c'est la Bible. Et ils ont remarqué que dès les débuts, dans la Genèse, Dieu met à part le septième jour. Et donc, ils sont revenus à l'observation du sabbat comme les premiers chrétiens pendant les trois premiers siècles de notre ère.
Et donc, les cultes ont lieu le samedi.
Le samedi. Alors, le campus adventiste du Salève, anciennement le séminaire adventiste à l'époque de Jean Weidner, c'est la toute première école de deux pasteurs qui a été fondée en Suisse en 1893, donc il y a 132 ans, et qui a déménagé de la Suisse vers la France, en Haute-Savoie, en 1921. Donc il y a à ce jour 119 étudiants en théologie à Collonges, du monde entier, avec plus de 22 nationalités différentes.
Un très bel endroit.
Oui, on a de la chance, on a la vue sur Genève, sur le lac et son jet d'eau. Ce campus est étoffé, il y a aussi une école de français langue étrangère pour personnes qui viennent apprendre le français. Il y a également un ensemble scolaire Maurice Thiesch, qui est une des 5 écoles du Conseil scolaire de la Fédération protestante, 5 écoles protestantes en métropole, sous contrat, avec de la maternelle à la terminale, 300 élèves.
Dans un premier temps de cette Seconde Guerre mondiale, cet homme, Jean Weidner, profondément croyant donc, va venir en aide à ses compatriotes hollandais. Mais cependant, très vite, il va se sentir moralement tenu d'aider d'autres malheureux et met sur pied un réseau bientôt appelé Dutch Paris, qui trouvait des logements, fournissait aux gens traqués par les Allemands ou la police de Vichy de faux papiers d'identité et, quand c'était possible, les faisait passer en Espagne ou en Suisse, pays resté neutre. Le réseau, qui compta jusqu'à 300 membres, a sauvé un millier de personnes, dont 800 juifs, plusieurs aviateurs abattus au-dessus de la France, des membres du clergé qui étaient poursuivis par les autorités pour avoir aidé des juifs, ainsi que des réfugiés politiques. Qu'est-ce qui, pour vous, Jean-Philippe Lehmann, qualifie le mieux Jean Weidner et explique son attitude?
L'altruisme. L'altruisme, c'est ça qui est étonnant, qui est touchant. Ce courage de prendre tous les risques. lui et tout ce qui l'entourait, parce qu'il était loin d'être seul, de risquer sa vie, celle de son épouse, de ses enfants, pour aider des gens qu'il ne connaissait pas, qu'il voyait dans la difficulté, et l'énergie qu'il met à s'engager dans cette mission qu'il se donne. Il était jeune et c'était avec des amis, des potes, qu'il crée tout ce magnifique réseau qui grandit, et aide tant de monde.
Stéphane, pour vous, qu'est-ce que vous retenez aussi de cet homme ?
Pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui a une foi très pratique. Parce que souvent, la foi, c'est quelque chose d'abstrait, hein, quelque chose de conceptuel, de théorique. Et en fait, Jean Weiner dit que, voilà, en tant que chrétien, pour lui, c'est naturel, c'est une évidence de venir en aide aux gens qui sont en difficulté. Mmh. Et donc, c'est vraiment la foi pratique dans toute sa splendeur. Et c'est ça qui m'interpelle.
Une mise en acte, finalement, de ce qui fonde ses croyances.
Voilà, c'est ça.
Jean-Philippe, vous êtes vous-même d'ailleurs petit-fils d'un pasteur qui était impliqué dans ce réseau. Cette histoire vous a accompagné
Oui, elle a bercé mon enfance. Mon grand-père, ma grand-mère étaient membres du réseau de Jean Weiner. Ils étaient des amis proches de Jean Weiner. Et enfant, j'écoutais les aventures de ce grand-père. Il recevait les réfugiés à la maison. Ma grand-mère faisait des kilomètres pour essayer de trouver dans les fermes un peu de pommes de terre et de lait pour nourrir ses familles. Et dès que c'était possible, mon grand-père prenait d'énormes risques pour leur faire passer la frontière suisse. Mes grands-parents étaient suisses. Et lui pouvait passer la frontière librement. Et il emmenait souvent dans ses poches du courrier pour la résistance, qui partait après à Londres. Voilà, c'était un engagement de tous les jours et beaucoup, beaucoup de risques.
Dans le parcours de Jean Weiner, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est cette capacité à s'échapper des situations périlleuses. Et peut-on y voir aussi, sans doute, une forme de protection divine ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il a été recherché par la Gestapo, il fut capturé plusieurs fois, mais il réussit toujours à s'évader. Une fois en sautant d'un train en marche, une autre en traversant le Rhin à la nage, une fois même en sautant d'une fenêtre du troisième étage, alors que les Allemands s'apprêtaient à l'exécuter. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cet aspect du personnage et de ce qui se produit là autour de lui. Quelle lecture vous en faites, Stéphane ?
Je pense qu'effectivement, c'est une vraie démarche de foi. Hein, ouais. Et la foi, ça implique aussi des choses surnaturelles. Mmh. Et parler de protection, et effectivement, sans doute qu'il s'est senti appelé à accomplir une mission, et que dans cette mission qu'il a accomplie, eh bien, il y avait cette protection divine qui lui a permis de la mener à bien. Même si on sait que ça s'est plutôt bien terminé pour lui, mais pas pour tout le monde qui était impliqué dans le réseau.
Bien sûr. Jean-Philippe ?
Oui, tout à fait. Plusieurs membres du réseau ont été capturés par la Gestapo, torturés, déportés et sont morts. Cette protection divine n'a pas empêché les épreuves, et la torture, les difficultés. C'est certain que Jean Weiner en a témoigné lui-même. Il se sentait soutenu, inspiré, porté pour l'accomplissement de cette mission qui allait au-delà de lui-même.
Ce qui est intéressant aussi, c'est, et ça n'est pas le cas de toutes les personnes qui ont été dans ce type de résistance, après la guerre, il est émigré aux États-Unis et il va s'investir pour que son histoire ne soit pas oubliée. En 1962, le journaliste Herbert Ford va publier ainsi sa biographie « Flee the Captor », traduite en français sous le titre justement « Le passeur » que vous reprenez pour le podcast. Moi, je vous propose d'écouter justement un extrait du deuxième épisode de votre série audio, Stéphane Vincent. C'est ici la rencontre entre le journaliste Herbert Ford et Jean Weiner.
Ville de Pasadena, Californie, juin 1963.
Monsieur Herbert Ford, bienvenue.
C'est moi qui suis très honoré.
Moi de même. Rentrez, rentrez.
Merci.
Je vous présente ma femme, Naomi.
Bienvenue, monsieur Ford.
Madame, merci.
Allons nous installer dans le salon. Je vous offre quelque chose à boire.
Un verre d'eau suffira, merci beaucoup. Je vous remercie de la confiance que vous me donnez pour écrire ce livre. Je pense qu'il est plus qu'utile de graver votre mémoire.
Je n'ai eu qu'une vie ordinaire. N'importe qui à ma place aurait fait la même chose.
Peut-être. Cependant, c'est vous qui l'avez fait. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. De ce travail d'écriture, vous allez faire ressurgir des moments difficiles. Difficile aussi de les transcrire pour être au plus juste pour tous ceux qui vont vous découvrir et rentrer dans un monde qui n'est pas le leur. Mais de cette prise de conscience à travers votre existence, nous pourrons peut-être contribuer à faire connaître que par votre témoignage, l'amour dépasse l'horreur. Ça va être difficile pour vous. Je sais que vous en êtes conscient.
Je me suis préparé. Je ne voudrais pas que le récit ne tourne qu'autour de ma personne. Je veux juste faire savoir que la foi peut transporter des montagnes. Commençons alors.
Par où voulez-vous commencer ?
Je ne sais pas. Je suis né le 22 octobre 1912 à Bruxelles. Désolé. Je recommence. Je suis chrétien, fils de pasteur adventiste. Non, c'est pas un bon commencement. Aidez-moi.
Et si nous commencions peut-être par les motivations qui vous ont poussé à vouloir sauver ces gens ?
Il y a déjà eu mon engagement de chrétien. On ne peut pas laisser faire un truc pareil. Vouloir exterminer tous ces innocents, on ne peut pas rester sans rien faire.
On ne peut pas rester sans rien faire. Très clairement, nous sommes là dans un témoignage de foi. Mais vous l'évoquiez, Stéphane, tout à l'heure, une foi qui s'incarne, une foi qui passe aux actes, une foi qui s'incarne dans une façon de vivre, une nécessité notamment de s'indigner devant l'horreur, de résister face à l'ignominie. Nous en parlions avec Élise Vonesch il y a 15 jours à propos de son roman Clandestine. Est-ce que chez les adventistes, on pourrait dire que c'est quelque chose de caractéristique, cette manière de concevoir la foi, donc comme quelque chose qui nécessite aussi d'être mis en pratique ? Qui veut répondre, Stéphane ?
Alors, je ne sais pas si je peux répondre au nom de tous les adventistes.
Oui. De votre point de vue, en tout cas.
Je vais déjà le faire en mon nom propre. Oui, pour moi, en tant qu'adventiste, en tout cas, c'est important que la foi soit suivie d'actes et que ce ne soit pas juste un concept théorique. Et je crois que voilà, et notre devoir aujourd'hui, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est justement de rendre compte aussi de ça et
faire mémoire et fait partie aussi quelque part de ce travail.
Et aussi sensibiliser tout un chacun, adventiste ou pas, à ce que nos croyances soient incarnées et que nous puissions vraiment, venir en aide auprès de tous ceux qui en ont besoin. Et ça, je crois que c'est pas seulement l'apanage des croyants, des chrétiens, des adventistes, mais il faut, enfin, je pense que il faut que ce soit quelque chose qui soit chevillé au corps de chaque être humain, et que cet aspect de solidarité, parce que là, il s'agit de solidarité aussi, soit vraiment ce qui donne un sens à notre vie, en fait.
Jean-Philippe.
Je partage l'avis de Vincent. En tout cas, c'est la conception que j'ai de ma foi, d'être dans l'action. Les adventistes le sont au niveau de l'éducation, être présent dans la société, être utile dans la société, au niveau de l'éducation, au niveau du médical, au niveau de l'humanitaire. Donc, l'église dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je travaille est mobilisée à tous les niveaux, dans la défense de la liberté religieuse ou de conscience. C'était aussi un des sujets de Jean Weiner, où l'Église adventiste est mobilisée. Donc oui, une foi dans l'action avant tout, au service du prochain.
Et cela va se remarquer au point que pour ses actions courageuses et désintéressées visant à sauver la vie d'autrui, Jan Weiner est devenu donc le Néerlandais le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Le 4 mai 78, Yad Vashem a décerné à Jean-Henri Weiner le titre de Juste parmi les nations. À sa mort en 1994, l'hebdomadaire Time lui rend hommage. Un centre et un musée lui sont dédiés à l'Atlantic Union College aux États-Unis. Et puis donc là, maintenant, en francophonie, cette série audio immersive, cette BD à venir, c'est à la fois la reconnaissance, mais aussi le besoin de mémoire qui est là, tel des véritables enjeux de témoignage, il me semble.
Tout à fait, c'est une histoire qui est inspirante pour chacun, inspirante pour les élèves de notre campus, pour les jeunes qui visitent aussi le petit musée que nous avons sur ce campus. C'est ce qui me plaît dans ces projets de Vincent et dans ce que j'essaye de faire aussi à Collonges, d'inspirer des jeunes par cette histoire d'altruisme et d'engagement. Ce sont de véritables héros qui ont fait ça gratuitement. Et c'est ça, je pense, de belles valeurs pour les jeunes et chacun, les vieux aussi, chacun d'entre nous.
Stéphane, vous partagez, j'imagine.
Oui, et puis ce qui retient mon attention dans cette histoire de Jan Weiner, c'est-à-dire que la foi nous pousse à nous dépasser. L'amour pour autrui, et puis cette foi nous amène à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire.
Oui. On va dire que ce sont les mots de la fin. Je vous remercie beaucoup à vous deux, Stéphane Vincent, Jean-Philippe Lehmann, en rappelant donc que la série Jan Weiner, Le Passeur, est à écouter sur le site opradio.live, c'est cela, dans l'onglet podcast.
Oui, c'est ça. Et puis, je voudrais quand même, pour terminer, remercier Christian Pierre qui fait tout ce travail de production audio et puis à venir aussi le travail graphique. Parce que il fait un gros travail de recherche dans les archives historiques et puis aussi sonores et de création. Donc merci à Christian.
Très bonne année à vous deux et bon retour merci. Jean-Philippe aussi dans ce très beau lieu qu'est ce campus adventiste du Salève que j'avais eu l'occasion de visiter lors des rendez-vous de la pensée protestante en 2021 qui rassemblait les facultés de théologie protestante. Au revoir et puis peut-être à bientôt dans Soleil pour un autre sujet.
Au revoir.
Au revoir.
Pour ce deuxième dimanche de janvier, j'accueille maintenant Juliette Angeletti pour nous livrer la chronique des amitiés huguenotes internationales. Nous parlions d'histoire protestante ce matin, et bien continuons encore. Bonjour Juliette.
Bonjour Jean-Luc.
Où nous emmenez-vous ce matin avec cette chronique ?
Alors aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un pan méconnu de notre histoire nationale, la Bourgogne protestante. Une région qu'on associe volontiers à ses vignobles et à son patrimoine médiéval, mais qui porte aussi en elle les traces profondes de l'histoire huguenote.
Alors savez-vous par exemple que Dijon a été le théâtre de l'une des premières persécutions de la Réforme en France ?
En effet, c'est en 1530 que deux pasteurs sont brûlés pour hérésie. Une décennie plus tard, en 1553, Simon Laloé, un lunetier venu de Soissons, subit le même sort, suivi en 1557 par un marchand et deux apothicaires. Malgré cette répression, les idées de Calvin trouvent un écho auprès des Dijonnais.
Alors comment cela s'est-il passé concrètement ? Racontez-nous.
Alors vers 1560, des contacts s'établissent avec Genève. Les fidèles demandent des pasteurs à Calvin. Et dès 1561, ils se rassemblent rue des Forges dans un prêche. À Autun, deux curés se convertissent et sont consacrés ministres à Châlons. La réforme progresse, soutenue par la diffusion de libelles imprimées à Genève et Bâle.
Mais alors qui sont ces premiers protestants ?
Principalement des bourgeois, marchands, industriels du drap, juristes, médecins, artisans et orfèvres. Cependant, les tensions sont vives. Les catholiques les écartent des responsabilités publiques. Les communautés doivent souvent s'exiler dans les bourgs voisins. Par exemple, les Dijonnais se replient sur Is-sur-Til, ceux de Beaune sur Volnay et les Mâconnais sur Pont-de-Veil.
Et les nobles dans tout ça ?
Ah, certains se rallient à la réforme, comme les Coligny, les Jaucourt ou les Condé. Mais les guerres de religion marquent un tournant dramatique. Si la Saint-Barthélemy est évitée de justesse à Dijon et Autun, grâce à l'intervention des autorités locales, les violences restent omniprésentes.
Et après les guerres de religion ?
Même après la victoire d'Henri IV en 1595 à Fontaine-Française et la promulgation de l'Édit de Nantes, l'application de celui-ci reste très limitée en Bourgogne. Puis vient la révocation de l'édit en 1685, qui signe la disparition presque totale des temples et des communautés protestantes.
Une résurgence au XIXe siècle, peut-être.
Effectivement, Jean-Luc. Des communautés renaissent à Châlons, Beaune, Dijon, Le Creusot. Des temples y sont construits, symbole d'un retour d'une vie réformée.
Et aujourd'hui, donc, comment perpétue-t-on cette mémoire huguenote ?
Du 22 au 28 septembre 2025, il vous faudra patienter un petit peu, les Amitiés Huguenotes Internationales organisent leur 20e réunion internationale à Dijon. Au programme, excursion sur les traces de cette histoire avec des visites de châteaux Renaissance à Tanlay, Ancy-le-Franc ou encore Fléchères, mais aussi des lieux emblématiques comme Autun, Beaune et Pont de Veil. Pour plus d'informations, rendez-vous aux Amitiés Huguenotes Internationales, 47 rue de Clichy, Paris 9e. Alors, que diriez-vous d'un voyage dans le temps, au cœur d'une Bourgogne réformée, pour redécouvrir une mémoire riche et souvent oubliée ?
Eh bien, je n'en dis que du bien.
J'en étais sûre.
On prend note. Merci Juliette. Merci également à Christiane Guttinger de nous avoir préparé les éléments de cette chronique. Deux recommandations de livres très vite pour séparer. Le premier continue de nous plonger dans une histoire protestante. Nous évoquions l'adventisme avec Jean Weidner et Jean-Philippe nous expliquait que l'adventisme venait du baptisme. Eh bien, c'est le baptisme maintenant par le biais de ce très beau livre, véritable document historique, mais aussi témoignage vivifiant d'un homme, le pasteur Billy Graham, qui a partagé sans relâche le message chrétien de la bonne nouvelle, réédition d'un titre tel que je suis, Billy Graham, une traduction de l'américain Just as I am, par Catherine Petitjean, avec un avant-propos qui est signé par Sébastien Fatt chez Calvin Éditions. Et enfin, dans la collection à la fois très nourrie et nourrissante, Qu'est-ce que ça change, chez Labor et Fides, un titre qui vient comme une évidence chez cet éditeur protestant, la Bible. Qu'est-ce que ça change, selon Thomas Römer, qui occupe la chaire milieu biblique au Collège de France, dont il est l'administrateur. Un petit livre important de culture générale, nous dit sa quatrième de couverture, une mise au point essentielle sur la différence entre les textes bibliques et le sens que les religions leur attribuent. Et nous nous séparons ce matin avec le nouveau titre de Jean-Marc Reynaud, qui est déjà venu chanter du gospel dans Soleil en live. Ici, c'est un titre en studio qui pourrait être entendu peut-être comme une forme de vœu qui pourrait s'adresser à nous tous. Jamais tout seul. Chanson évidemment disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.
Je voudrais être comme toi, te ressembler et témoigner que tu es le seul parfait. C'est toi qui changes les cœurs, transforme-moi au Seigneur. Tu as les clés de ma prison et tu as vu mon affliction. Ton bras n'est pas trop court, ni ton oreille trop dure.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Nicolas de Pagraf à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h dans Présence protestante, c'est Ma Bible, une émission préparée par Eric Denimal, réalisée par Jean-Rodolphe Petit-Grimeur, en partenariat avec l'Alliance biblique française, sur le thème ce mois-ci de Paul, les réseaux de Corinthe, avec Valérie Nicolet, Cédric Eugène, professeur du Nouveau Testament, Patricia Sassilotto, pasteur et animatrice biblique, et puis Nicolas Farelli, pasteur et président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Mais à suivre ici, sur Culture, vos informations, suivies juste après le Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, 8h30 sur France Culture, et je vous souhaite un très bon dimanche à chacune. Et chacun.
Tu verras ma gloire et ma lumière, ma justice, mon amour, je te change.